Tout est sous contrôle. Cette phrase serait une façon de pratiquer la méthode Coué, parce qu'aujourd'hui, on tente de le garder le contrôle. Et vaille que vaille. Mais il fut un temps où l'imprévu était bienvenu, et un artiste français en était le roi. Aujourd'hui, Pop & Co et Jacques Higelin. Alors Champagne. On le connaît pianiste, mais il fut aussi accordéoniste et il jouait de la guitare. C'est le musicien Henri Crolla qui lui avait appris à la manier. Higelin a gardé la guitare que Crolla lui avait offerte jusqu'à la fin de sa vie, et avec elle il est parti faire son service militaire en Algérie. C'était les années 60, fête de noirceur et de beaucoup d'espoir aussi. Higelin musicien, c'est une certaine France de ces années-là que certains critiquent aujourd'hui. Une France de la liberté, d'une contre-culture vivifiante. Et Higelin en fut d'abord l'une des incarnations, parce qu'il a explosé les codes de la chanson, parce qu'il a ouvert la voie au rock d'ici, parce qu'il a conçu des disques comme des épopées jusqu'à remplir Bercy. Higelin a écrit des chansons d'amoureux, de pères, d'enthousiastes, d'inquiets, voire de désespérés. Jusqu'à midi, on va, comme il le disait, flâner entre les intervalles. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Je m'appelle Jacques Joseph Higelin, dit Crabouif. Je suis né le 18 octobre. Je suis le seul individu au monde à qui ceci est arrivé.
Et nul n'y peut rien.
C'est l'histoire d'un enfant qui aimait raconter des histoires. Quand il est devenu adulte, ça a été pareil. Alors il s'est imaginé comédien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a fait son service militaire en Algérie après le cessez-le-feu. À son retour, il prend une décision. Non, il ne serait pas comédien. Pour raconter des histoires, il serait musicien.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Jacques Canetti, producteur et directeur d'une salle de concert, est le premier à faire enregistrer Higelin. Canetti propose qu'il reprenne des chansons de Boris Vian et ça lui va bien. Mais sur ce premier disque, il y a aussi des morceaux signés Higelin, dont celui-ci.
Quand j'improvise sur mon piano, quant à ma guise, je peux jouer slow. Je me balance la théorie, me contredanse des contre-si. Quand sous la lune je joue pour toi, toute ma fortune est entre mes doigts. Alors vous pouvez protester, fermez vos portes si ça vous plaît. Moi j'improvise sur mon piano et je me grise du blues en dos.
Bonjour
Valérie.
Ponctualité, ça va?
Vous êtes chez Valérie Lehoux, journaliste à Télérama et autrice de Je vis pas ma vie, je la rêve, une plongée dans la vie d'Higelin.
Le jazz, c'est fondamentalement les fondations musicales de Jacques Higelin. Il écoutait du jazz à la radio quand il était gamin, en grande banlieue parisienne, à Chelles, où il a grandi. Il a été assez vite entouré de musiciens de jazz, en tout cas il a réussi à en côtoyer plusieurs. Il a rencontré Sidney Bechet quand il avait 16 ans. Il était passionné par cette esthétique-là, il ne faut pas oublier quand même qu'il est né en 1940, qu'il a grandi, enfin voilà, c'était un petit garçon dans l'après-guerre, et cette après-guerre qui était très très quand même influencé par cette fascination de l'Amérique. Il se souvenait à la Libération avoir vu des Noirs américains qui passaient du côté de sa petite ville de Seine-et-Marne. Ça a été donc vraiment, ses premiers disques sont très imprégnés de cela, mais on se rend compte que tout au long de sa carrière, en fait, si on écoute bien, le jazz sera toujours là, comme une espèce de soubassement absolument essentiel.
Pour cette chanson, Quand j'improvise, Higelin est tout seul à la télé. Et là, comme sur disque, il interprète tous les instruments avec la bouche.
Et puis il avait été formé vraiment à l'esprit de Charles Trenet, que son père écoutait beaucoup quand il était petit, que lui-même a adoré. Vous savez qu'on surnommait Charles Trenet le fou chantant. Et c'est aussi un surnom qu'on donnera à Jacques Higelin dans les années 80-90-2000, ce qui est à la fois cocasse, quelque part, parce que quand on les regarde l'un et l'autre, on se dit « Ouf, quel rapport !» Mais en fait, oui, bien sûr, et dans la construction, et dans l'originalité, et dans l'imaginaire, et dans cette faculté qu'ont finalement très peu de chanteurs français de construire un univers qui ne soit pas simplement du domaine de la confidence amoureuse, on va dire, mais d'une espèce de fantasmagorie, d'imaginaire construit, d'un univers à part entière dans lequel on entre, comme si on entrait dans un univers littéraire, comme si on entrait dans un conte, comme... voilà. Et tout ça est fondamentalement imprégné de jazz chez lui.
Alors vous pouvez préférer Minuit chrétien, si ça vous plaît. Moi j'improvise des entrechats. La terre promise est pour bientôt. La terre promise est pour bientôt. Quand j'improvise sur mon piano.
Toujours l'improvisation, toujours le danger de ce qui n'est pas prévu et de savoir où ça peut nous amener. Il était dans la permanente recherche de ce que la création non cadrée pouvait lui apporter.
Mais ça, c'est peut-être, au fond, ce qui fait de lui un personnage totalement inédit dans l'histoire de la chanson française. J'ai pas d'autre exemple en tête de l'incarnation de ce truc-là.
En effet, je ne vois personne d'autre qui ait à ce point manié cet art de... cet art du surgissement, de l'improvisation. Et ça, c'est pas dans la tradition de la chanson française, qui est quand même, telle qu'on la conçoit, la chanson française à texte, quand même, qui est, on va dire, l'école dans laquelle il s'inscrivait, Brel, Brassens, Barbara. Donc quelque chose qui se rattache à l'écriture au départ. Higelin, c'était une écriture vivante, parce que c'était une écriture mouvante et orale. Vraiment, il avait... en lui, ce goût de la culture orale.
Extrait de « Je vis pas ma vie, je la rêve » de Valérie Lehoux, où Jacques Higelin raconte la fin des années 60. L'époque est des danses, chaleureuses, hyper créatives. L'étendue des possibilités semblait infinie. Dans mon esprit, c'était « Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui ? Qui on va rencontrer ?» Et un soir, Jacques Higelin rencontre Brigitte Fontaine. Il dit « Je l'ai vue. » à travers la porte vitrée du cabaret de l'Écluse. J'ai hésité à entrer, je n'avais pas un rond. J'ai quand même poussé la porte. La fille était incroyable, très belle, chantant des trucs très dérangeants, j'étais fascinée. Elle était celle que je cherchais. Ensemble, ils vont créer un spectacle avec le comédien Rufus, ça s'intitulera « Maman, j'ai peur ». Et Jacques écrira des musiques pour Brigitte. Et ils chanteront des duos. Higelin et Fontaine interprètent ce morceau qu'ils ont écrit pour un film, le titre c'est « Cet enfant que je t'avais fait.
Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant. Te souviens-tu?
Offre-moi une cigarette. J'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caresse-moi encore la tête. J'ai tout mon temps jusqu'à demain.
Alors c'est amusant parce que cette chanson, si on l'écoute sans faire attention à ce qu'elle dit, on peut penser que c'est une chanson, une jolie chanson, un joli duo, sûrement un duo d'amour puisque c'est entre un homme et une femme. Puis on écoute et c'est complètement dingue. C'est un texte complètement fou où un homme demande donc à une femme ce qu'elle a fait de cet enfant qu'ils ont fait ensemble. C'est vrai que là on est en plus avant 68, juste avant 68.
Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Te
dit, vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je crois que je n'ai plus la grippe. Voulez-vous monter un moment? Que disiez-vous?
Donc ça préfigure cette espèce d'esprit du couple libre, de l'amour libre, de pourquoi pas très 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 en amont, on fait de la redéfinition possiblement des rôles paternels, maternels par rapport à un enfant.
Oui, parce que c'est elle qui ne sait pas où elle l'avouerait.
Et c'est une chanson terriblement subversive, puisque à travers simplement l'exemple de ce couple qui a eu un enfant et dont la mère, bah tiens, ne sait plus ce qu'elle en a fait, ça remet complètement en cause la structure patriarcale, hein, qu'on critique tellement aujourd'hui, mais qui était tellement puissante et présente et qui organisait l'ensemble de la société, ça remet cette structure-là, cette matrice-là en cause. C'est incroyablement subversif, cette chanson, sous ses airs doux.
Mais je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant encore tout blanc. Te souviens-tu?
Ah, vraiment, tous mes compliments, mais arrêtez, je vous en prie.
Sort des codes classiques de la séduction en chanson. On cherche à provoquer une réaction chez l'autre. L'art, c'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. C'est là pour susciter une interrogation, un sentiment fort chez vous. Et c'est vraiment là-dedans qu'il s'inscrit tout de suite.
Jacques, toi, c'est quelqu'un qui m'intriguait vraiment. On avait passé une nuit ensemble, que j'avais jamais oublié, parce qu'il m'avait vraiment épaté. C'est une espèce de grand chat comme ça.
Et voici Pierre Barou. C'est lui qui publie ce duo, Cet enfant que je t'avais fait, sur son label discographique indépendant. Sarava, c'est le nom de ce label. Barou le crée en 1965. Et Sarava, c'est quoi?
Moi, j'ai pas eu d'action didactique, tu vois, je n'ai pas d'ordre. Mais je disais à quelqu'un comme Michelin, tu vois, où je sentais potentiellement en lui cette liberté fantastique, je lui disais, va jusqu'au bout de tout. Parce que personne n'ose. Tu fais un disque, tu te dis, oh là là, il faut que ça marche, il faut que ça rentre dans un certain schéma. Et moi, je leur disais seulement, tout ce que je vous demande, c'est d'aller au bout de tout. Vous allez rester en studio un mois, deux mois, trois mois. Si à la sortie, vous n'êtes pas content, je ne sortirai pas le disque.
Et dans le studio de Sarava, à Montmartre, il y avait... un gamin de 4 ans.
Le petit tambour du roi.
Il s'appelle Arthur Higelin.
Le petit tambour du roi. Je me rappelle plus de la suite.
Et sa voix se retrouve sur l'album Jacques Crabouif Higelin, paru en 1971.
Voilà que le disque se termine.
Dans le studio Sarava, il y avait donc Brigitte Fontaine, souvent, et Areski Belkacem, musicien percussionniste qu'Higelin avait rencontré pendant son service en Algérie. Valérie Lehoux.
Alors vous aviez le studio de Sarava qui était au fond d'une impasse. Et puis, quand ils avaient besoin, ils étaient en train de travailler, ils avaient besoin d'un saxo ou d'un bassiste. Ils descendaient l'impasse, mais c'est vraiment à 70 mètres. Ils allaient au café d'à côté qui s'appelle le Saint-Jean. Ils disaient, ouais, est-ce qu'il y a un bassiste dans la salle? Est-ce qu'il y a un saxo? Et il y avait toujours des musiciens qui traînaient. Et les mecs, ils venaient avec l'instrument et ils jouaient comme ça. Et tout ça improvisait sans contrainte.
Pompiers, pompiers, j'ai les pompiers dans mon zizi. Pompiers, pompiers, j'ai les pompiers dans mon zizi.
Tiens, j'ai les tiens.
Quand tu poses ta tête lourde tête sur mon genou, je deviens fou. Si je deviens fou, faut m'enfermer. Ça coûte des sous à la société.
A priori, l'idéal des jeunes gens de l'époque, c'était de faire carrière, de s'acheter une télévision, une machine à laver, enfin toutes ces choses qui nous semblent tellement évidentes, mais que les jeunes foyers n'avaient pas à l'époque. Hein, c'est... Et donc une idée de croissance et de rentabilité et de travail. On s'épanouissait au travail. Et il va y avoir un contre-courant à tout ça qui est, ben voilà, il y a des années, il y a des jours, il y a des mois, il y a des semaines où on a envie de ne rien faire. On a envie d'être devant son piano ou sur sa guitare, à chantonner, à lire, à poétiser, à rêver, tout simplement.
Et Sarava est la bande-son de ça.
Complètement. Et Sarava va s'extraire complètement des critères esthétiques, artistiques, économiques. La chanson de 3 minutes formatée pour passer sur les radios, sur Salut les copains, bah, c'était pas possible. Pour inventer un autre monde, un monde en marge. Et c'est un peu comme si mai 68 avait réussi.
On nous dit... Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur.
On invente un monde nouveau en musique chez Sarava. Et on invente aussi un monde nouveau dans les journaux et au cinéma.
Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
En 1973, Jacques Doyon, Alain Resnais et Jean Rouch réalisent un film adapté d'une bande dessinée de GB, parue dans Politique Hebdo, puis Charlie Mensuel, puis Charlie Hebdo. Et voilà l'idée.
Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul. Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin.
Il y a Coluche, il y a Depardieu, il y a Miu Miu dans l'an 01. Et Jacques Higelin. C'est l'époque où il est parti vivre en communauté avec sa femme Kuelan et son second fils Ken. Higelin, avec un grand chapeau, un pantalon pas de def et des cheveux longs. Version hippie, quoi. Et puis un soir, ou plutôt une nuit.
Un producteur de l'époque, qui deviendra son producteur pendant de longues années, lui décroche une première partie d'un groupe de funk qui s'appelle Sly and the Family Stone à l'Olympia. Il y va, il dit voilà, je suis arrivé avec mon costume blanc, un accordéon, les cheveux longs. Il se fait huer. Et pour ce mec qui veut s'exprimer depuis des années, qui depuis... à ce moment-là, on est donc au début des années 70, ça fait 10 ans qui galère quand même pas mal, hein. Économiquement, c'est pas du tout... Il roule pas sur l'or, loin de là, mais il se bat pour essayer de s'exprimer, pour essayer d'être libre. Et voilà qu'il se fait bâcher, hein, comme on dit, par une salle entière. Il l'a extrêmement mal vécu. Et la petite histoire veut qu'il soit parti, qu'il soit allé aux puces. Il s'est acheté un blouson noir, il s'est fait couper les cheveux, quasiment raser la tête, hein. Il a jeté ses fringues, son costume blanc, il est rentré chez lui, Kuelan lui a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il lui a dit « Maintenant c'est fini, je vais faire du rock'n'roll et ça va être la bagarre. » Donc le rock chez lui s'est imposé comme plus, je pense, comme une réaction, une forme de colère, que comme une forme musicale à part entière. Enfin, en tout cas, la forme musicale n'a été que la conséquence d'une colère et d'une volonté de s'affirmer. Voilà, et de dire... Merde quoi, je suis là, écoutez-moi. Et s'il faut tout casser, je vais tout casser.
Le premier rocker français a donc un prénom qui commence par la lettre J.
Quand je suis sorti du souk, je tenais plus debout sur mes cannes.
J, pas comme Johnny, mais comme Jacques.
Blague, je me farcis de ploucs qui frimaient sur leurs bécanes.
Le disque qui pose les fondamentaux du punk rock français s'intitule BBH75.
C'est plus de quoi j'avais l'air pour qui pense à me braquer. Pas le temps de revoir ma mère que déjà j'étais retourné. Oh, dans le pop-son, pop-son, où ce que tous les paumés vont. Pop-son, pop-son, pop-son.
Est-ce que c'est l'un des premiers disques qui parle effectivement de ce qu'on appelle la banlieue? Il est question que de perdants magnifiques dans ce disque-là. Non, pas parce qu'on parle toujours de Renaud, mais là, Boxon, pour moi, c'est ça. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Il est ça, à ce moment-là. Il se vit comme ça. Et bien sûr, c'est vrai que c'est le premier à avoir chanté cette société en marge, en tout cas, en marge de la prospérité. Tout ça dans la France de Giscard, et donc tout ça en ayant eu du mal à trouver une maison de disques, puisque les maisons de disques lui disaient que les chansons étaient trop violentes. Mais évidemment qu'il ne passait pas à la radio. Il ne passait pas sous la radio giscardienne. C'est pas possible. Et en 1977, si le Printemps de Bourges s'est créé, Printemps de Bourges dont Higelin a toujours été l'un des piliers, et il était évidemment présent à la première édition, c'était pour offrir une tribune, une scène, à tous ces chanteurs qu'on n'entendait pas à la radio. Au premier titre desquels Higelin, l'habillait aussi, mais premier titre desquels Higelin, c'est vraiment lui qui incarne ça.
Entre 1974 et 1979, Jacques Higelin publie quasiment un album tous les ans. Les disques Irradiés, Alerter les bébés, No Man's Land, Champagne pour tout le monde et Caviar pour les autres, tous ces albums sont enregistrés dans un château du Val-de-Marne. C'est le château d'Hérouville. Elton John, David Bowie, Iggy Pop sont passés là. Higelin est installé avec femme et enfant dans la bergerie du château. Pour le disque Alerter les bébés, il y a des bottes de foin amenées par les paysans du coin pour insonoriser la pièce. Deux ans plus tard, 1978, Jacques Higelin a 38 ans et il connaît son premier tube avec cette chanson. Figure sur l'album No Man's Land, Valérie Lehoux.
Ce disque, moi, No Man's Land, personnellement, c'est mon disque préféré, je trouve que c'est un disque parfait. Il y a des chansons qui sont des monuments du répertoire français, en fait, et qui ne sont pas forcément très très connues en dehors du cercle des fans d'Higelin, mais Un aviateur dans l'ascenseur, Elle comme beauté, L'amour sans savoir ce que c'est, parce que toutes ces chansons-là sont des longues chansons qui sont habitées, porté par un souffle que peut-être qu'on a trouvé chez Léo Ferré, mais nulle part ailleurs. Hein. On n'est pas du tout dans ce truc de ce qu'on pourrait appeler l'autofiction, pour apporter quelque chose qui vient du domaine littéraire, qui était très très fort et qui restait hyper puissant dans la chanson française depuis Barbara, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui va se confesser, entre guillemets, et dire des choses très personnelles en chanson, de façon poétique, etc. Et quand même dans la lignée... duquel Souchon s'inscrit encore quand il chante Allô Maman Bobo. Là, Higelin, il s'en affranchit complètement. C'est l'épopée qui inscrit la chanson et le propos de la chanson dans une espèce de récit d'une ampleur qu'encore une fois, on n'a quasiment jamais vu dans la chanson, encore aujourd'hui.
Dans son livre « Je vis pas ma vie, je la rêve », dédié à l'œuvre et à la vie de Jacques Higelin, Valérie Lehoux écrit: coup d'œil sur mes notes, parce qu'il m'a dit ce qui m'est venu en l'observant. Étouffe, dès qu'il se sent coincé. Aime ceux qui savent rire. Balance entre un désespoir profond et une intense envie de vivre. Higelin fait son autoportrait dans une chanson où il chante « Et je crie, et je pleure, et je ris au pied d'une fleur des champs égarée, insouciant, cœur serré par la colère. Sur la terre, face au ciel, tête en l'air et...
Il y a des allumettes au fond de tes yeux, des pieds noirs que ma boîte aux lettres, des coups de garde dans la vie des miens, les oubliettes au fond de la cour.
Comme un vol d'hirondelles échappées de la poubelle des cieux.
Thank you, my lord.
Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté?
Il y a des allumettes au fond de tes yeux, des pieds noix à queue dans la boîte aux lettres,
Tu pots du yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour.
Là, nous sommes en 1979. Et Higelin publie Champagne pour tout le monde, l'album où figure la chanson Champagne.
Mais là, Higelin va écrire une chanson vraiment magistrale, hyper scénographiée en fait, c'est ça aussi. C'est des chansons un peu cinématographiques, c'est des chansons très visuelles. C'est des chansons où, contrairement encore une fois à la tradition de ce qu'on appelle la chanson à texte, on n'est pas que dans le sentiment, on est vraiment dans le narratif et on est dans... on le voit, ce banquet, on les voit, les personnages complètement loufoques de Champagne. Et dans l'univers de la chanson à texte, qui est plutôt intérieur, intériorisé, lui, il assume quelque chose de très extérieur dans l'expression, de très comédien aussi, quelque part. Il campe ses personnages.
Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
Lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui
Il déshonore mon portail, il me cherche sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Peur comme quand je passais à la radio.
24 mars 2007, Jacques Higelin est sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio.
J'ai le trac parce que je sais que dans des endroits très différents, en dehors de nous qui sommes rassemblés ici, il y a des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des enfants, des vieillards qui sont en train de m'écouter.
France Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Et aujourd'hui, Pop & Co. et Jacques Higelin.
Alors là, le silence à la radio, vous inquiétez pas, mes chères auditrices et mes auditeurs. J'ai pas eu un malaise, non, simplement que des moments, j'ai envie de rien dire, puis voilà. Une radio super sympa, tu ouvres le poste, il n'y a rien. Si on passait à la musique, ce serait sympa, non?
À l'orée des années 80, Jacques Higelin connaît enfin le succès et il donne des concerts qui sont restés dans la mémoire de tous ceux qui y étaient. Ça s'est passé au Cirque d'Hiver en 1982. En 83-84, il est au Casino de Paris et il y reste 4 mois. Pour un artiste français, je crois que c'est unique dans l'histoire. Et puis...
Merci, celui qui va chanter de seul.
Higelin. À Bercy, à partir du 12 septembre.
Donc, quelque chose de très grandiloquent, hein, quand même.
Valérie Lehoux.
Je pense que c'est une espèce de paroxysme, d'une courbe qui a mis du temps à démarrer. Le succès est venu lentement. Premier succès seulement en 78. Et puis là, tout s'emballe. Il s'impose. Il impose vraiment sa singularité. Et donc, Bercy va s'imposer, en quelque sorte, parce que c'est la plus grande salle qui a été inaugurée l'année d'avant. C'est très très inédit en France à ce moment-là. C'est un événement. On mesure mal aujourd'hui ce que c'était que cet équipement dingue là qui pouvait accueillir 12, 13, 14 000 personnes. 14 000 personnes, je crois, oui. Et donc, il va investir Bercy pendant un mois. Je crois qu'ils étaient 30 sur scène. Enfin, une machinerie de dingue avec un décor, divers plateaux qui bougeaient, qui montaient. C'était un pari complètement fou et complètement loufoque et complètement démesuré. Et si vous écoutez, enfin, moi, je trouve qu'il est très, très impressionnant l'album live de Bercy parce qu'il arrive à faire chanter les gens comme il les faisait chanter avant dans des petites salles. Sauf que là, du coup, ce sont des milliers de personnes qui reprennent en cœur ces chansons et il y a une force dingue. Dans ces années-là, c'est quand même le type qui fait venir j'ai vérifié, le plus grand. C'est le chanteur qui fait venir le plus de monde en spectacle.
Est-ce que vous êtes prêts à déconner? Est-ce que vous êtes prêts à chanter? En anglais? Très, très. Ok, alors je commence. All right.
Ces soirs-là, d'autres musiciens rejoignent Jacques Higelin sur scène. Parmi eux, il y a le Sénégalais Youssou N'Dour ou le Guinéen Mori Kanté.
Tout comme il avait été précurseur pour l'expérimental, pour le rock, il sera en fait précurseur, Jacques Higelin, pour les musiques du monde. Parce qu'en effet, à l'époque, lui, il les avait rencontrés à la faveur d'un voyage en Afrique. À l'époque, on n'entendait pas ces gens-là sur de grandes scènes. On ne les voyait pas, ça n'existait même pas, le concept de world music. Ça a été beaucoup posé sur la scène musicale mondiale par la création du label de Peter Gabriel, Real World. Real World, c'est 1988. Higelin à Bercy, c'est 1985. Il est précurseur pour les musiques du monde et il est à la fois très, très en écho avec l'époque, parce que juste l'année d'avant, il y a eu la création de SOS Racisme. L'année encore avant, il y a eu la fameuse marche pour l'égalité, rebaptisée depuis la marche des beurs. Et en tout cas, une sensibilité dans la France de ces époques-là pour ces questions émergentes à l'époque de racisme et de soucis d'intégration.
Oh oui, il était bon. Ouais, il était super.
Il a atteint un point où il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus dans cette démesure-là. Et d'ailleurs, financièrement, ce ne sera pas une réussite, Bercy. Après, il faut se dire quand même que pendant un mois, il a chanté que c'était plein les week-ends et que c'était à demi-plein la semaine. À demi-plein la semaine, ça fait 7000 personnes tous les soirs. Hein, donc, voilà. Mais lui, après Bercy, il va avoir un moment de... un gros down, comme on dit.
Un an plus tard, 1986, c'est la première cohabitation. Sous la présidence Mitterrand, Jacques Chirac devient Premier ministre. Et pendant ce temps...
Qu'est-ce qui fait marcher ta vie ? Qu'est-ce qui fait marcher ta vie ? Qu'est-ce qui fait marcher ta vie ?
Un futur ministre de la ville fait de la pub pour une de ses entreprises. Il s'appelle Bernard Tapie.
Mais qu'est-ce qui vous fait marcher ?
Moi ? Je marche à la Vendère. Alcaline Vendère, plus 40% de durée.
Et Jacques Higelin, dans cette France-là...
Ça va s'imposer comme comme un deuxième autoportrait du type décalé, quoi. Et pas intéressé par le matérialisme dans une France qui, à l'époque, glorifie beaucoup, beaucoup ça. Et Higelin, ouais, à côté, bah, poil dans la main, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de m'arrêter. En tout cas, j'ai envie d'imposer mon rythme. C'est vraiment ça. Mais ouais, je me disais, quelque part, dans les années 70... pré et post 68, il est complètement dans son époque. Dans les années rock, il va être porte-voix d'une forme de marginalité, il est dans son époque. Musique du monde, début des musiques du monde, il est dans son époque. À partir de ce moment-là, t'as l'impression qu'il va construire son époque ou son monde, presque en opposition
au bruit de fond.
Au bruit de fond et à celui qu'on veut lui imposer, ouais. Il s'affirme en tirant la langue. Donc c'est drôle, quand on regarde vraiment la carrière de ce type, c'est à la fois le reflet de certains moments et le contre-reflet d'autres.
La chanson « Poil dans la main » figure sur l'album « Tombé du ciel » paru en 1988 et réalisé par Jacquenot.
Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges. Paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombé comme un météore dans les poches de Balthazar Gaspard.
C'est bon, je suis prête.
Jeanne Chéral est donc dans ce Pop and Higelin. Au début des années 2000, elle fait la première partie de Jacques dans un théâtre à Ivry. Un soir, il l'invite pour un duo, forcément imprévu. Elle en écrira un autre pour lui. « Je voudrais dormir », c'est le titre. Il figure sur un album paru en 2004. Mais bien avant...
Je pense que Higelin est entré dans ma vie par l'album « Tombé du ciel ». J'étais enfant, je sais pas, j'avais 10 ans peut-être quand il est sorti. Et je me souviens très bien de... On l'avait en cassette audio chez mes parents. Et j'étais fascinée par ce disque, déjà par sa pochette, parce que sur la pochette, Higelin est en chute libre, il est dans le ciel, quoi. Il fait un saut en parachute. Et j'ai vraiment épuisé cet album, retourné la cassette maintes fois. J'adorais Tomber du ciel, évidemment, la chanson, mais tout cet album a vraiment infusé... je le trouvais très festif, quoi, très très joyeux et en même temps super profond. Je pense que j'avais pas forcément accès à tous les sens de chaque chanson, mais je me rendais compte, même étant enfant, que c'était un album important.
Tomber d'en haut, comme les petits gouttes d'eau que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors, le cœur en fête aux heures de girouette.
Comment vous le trouviez comme pianiste ?
Feu follet. Et moi, j'adore quand il y a beaucoup d'accords dans les morceaux. Les écarts d'accords et les écarts de notes qui régalent et qui sont inattendus. Et là, il était vraiment là-dedans. Et puis, en même temps, il y a certains de ces morceaux avec des choses beaucoup plus classiques, des choses beaucoup plus ragtime, qui sont plus en terrain connu. Et j'aime ça aussi. Enfin, je trouve que c'était un pianiste unique en son genre, dans le sens où il n'était pas du tout académique, quoi. Une chanson qu'il avait confiée à Wilhelm Scheller pour les arrangements, qui s'appelle, je l'ai reprise en plus, c'était un boulot, ça m'a pris 6 mois, mais qui s'appelle La fuite dans les idées. Ça, c'est pareil, pour en avoir fait une petite réduction au piano, en essayant de comprendre comment il avait composé ce truc-là, je me suis rendu compte à quel point c'était riche, foisonnant. Il y a beaucoup de ces chansons qui sont comme ça, hein, qui sont extrêmement fournies, quoi. Pour un pianiste, c'est vraiment un régal.
En 1990, Jacques Higelin a 50 ans pile. Son troisième enfant naît cette année-là, c'est une fille. Elle s'appelle Isia, il lui consacrera plusieurs chansons, dont celle-ci, Ballade pour Isia.
Peut-être ce qui m'a tire en toi, n'est autre que le sou, rire en moi. Rire en toi, du petit esprit ma cieux qui lance des étincelles dans le ciel de tes yeux.
Les années 90, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle une nouvelle scène française. On utilise cette expression à peu près toutes les décennies. Et cette fois, elle est représentée par des artistes comme Dominique A, Miossec. On parle de pop minimaliste.
Higelin, il déborde. Il déborde de tout. Du format, de lui-même, des émissions, de tout. Et en effet, les nouveaux chanteurs qui émergent à ce moment-là et qui s'imposent petit à petit, qui vont représenter cette nouvelle esthétique de la chanson, ils sont beaucoup plus dans une forme de sobriété et d'intériorité. Donc ils détonnent. Il le sait, il le vit pas très très bien. Il va traverser des années compliquées. Ouais, honnêtement, il y a eu des moments dans ces années 90, moi je me souviens l'avoir vu sur scène, je ne travaillais pas encore en tant que public, c'était pas toujours facile parce qu'il était de mauvais poil, il engueulait les gens. Donc bah, quand t'engueules un public, c'est assez rare que les gens se lèvent pour t'acclamer. Donc il y avait une espèce de cercle vicieux, il y avait un mauvais mood, comme on dit, quoi.
Allô ?
Voici Rodolphe Burger, musicien.
Bonjour Rebecca. Je suis désolé, j'ai une séance tardive, il me réveille tout juste. Pardon.
Ah, vous vous réveillez là ?
Mais c'est pas grave, hein.
D'accord.
On peut parler, hein. Je suis désolé.
Non, pas de problème.
Enfin, est-ce que je peux avoir 2 minutes, ou est-ce que c'est du direct, ou c'est...
Prenez vos 2 minutes, faites-vous un café.
Voilà, très bien. À tout de suite.
Rodolphe Burger a réalisé 3 des derniers albums de Jacques Higelin, et c'est Higelin qu'il contacte. Nous sommes en 2005.
Ben là, je peux dire vraiment que, à ce moment-là, il était assez désespéré sur le plan artistique, quoi. C'est-à-dire, il disait, il est vraiment venu comme ça, ça m'a complètement sidéré, vous pouvez imaginer. Il vient vous voir et vous dit, j'ai perdu la clé, je ne sais plus, je ne suis pas content de mes derniers disques. Il m'a confirmé que ça s'était mal passé avec les réalisateurs, les maisons de disques et même les musiciens. Alors, il avait plein de démos, de choses enregistrées, plus ou moins élaborées. Quelquefois, c'était simplement une mélodie qui sifflait, qu'il avait enregistrée. Et d'autres fois, c'était des textes improvisés. Un amas de choses dont il ne parvenait pas à se dépêtrer. Il disait, je cherche quelqu'un qui m'aide et qui soit pas du côté des maisons de disques. un allié. Il cherchait un allié qui soit plutôt artiste. Et en l'occurrence, moi, j'avais zéro, si vous voulez, dans mon CV, j'avais pas de compétences de réalisateur. Bien sûr, j'ai réalisé mes propres disques, tout ce que j'ai fait en collaboration, que ce soit avec Bachoum, François Hardy, etc. Mais dans ces cas-là, j'étais moi-même compositeur ou partie prenante. Donc, j'avais jamais réalisé pour, c'est-à-dire se mettre totalement au service d'un autre artiste. Et donc, j'étais, vous imaginez bien que la pression était énorme, parce que voilà, on peut que être désemparé, intimidé, parce qu'il disait si je rate ce disque, j'arrête tout. Enfin, voilà, il était vraiment dans un moment. Dans un moment compliqué, il y avait un enjeu.
Crocodile, oh oh. Ni drapeau ni médaille, serré dans les mâchoires du crocodile. Crocodile, pris dans ses entrailles, je donnerai pas cher de ta peau.
Au moins deux pour simplifier des Yvelins. Il y a ce Yvelin, on va dire, voilà, l'enfant de Trenet qui voulait écrire des chansons. En général, il avait des mélodies formidables, mais il n'avait pas de texte. Pour faire ces textes-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment un labeur que vous n'imaginez pas. Et puis, il y avait l'autre Yvelin, qui, alors là, c'était l'inverse. C'est-à-dire, il n'avait pas de musique. Il n'avait pas de musique. Il avait des textes ou des inspirations, des bribes de textes aptes à être développées. Et donc, c'est le Yvelin improvisateur. Puis c'est le Yvelin chaman. Et donc, celui-là, le chaman, comme il n'avait pas la clé, des conditions qui lui permettaient d'être dans cet état, qui en général était le live. C'est le Yvelin que les gens ont connu en live. Il n'avait pas la clé de, tout d'un coup, de cette chose qui pouvait jaillir. Donc, pour obtenir ces choses-là, de lui, c'était de le mettre en condition, c'est-à-dire de très bien l'entourer, d'avoir des musiciens qui le comprennent, qui soient totalement à son écoute, et qui soient très bons musiciens. Et là, il pouvait partir en transe. Et nous avons connu dans le studio des moments de transe. C'est-à-dire qu'on part pour un morceau, qu'on ne sait pas, qui peut durer 3 minutes, en fait, il dure 20 minutes. Et il n'y a rien à jeter. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire. Tout musicalement est en place, sans avoir été écrit, composé du tout.
Il y eut l'album BBH 75, paru au mi-temps des années 70, et il y aura Yvelin 75, album ultime réalisé par Rodolphe Burger et publié en 2016. Y figure cette chanson, L'emploi du temps.
Et me voilà, poussière d'étoiles, entraîné par les engrenages du carillon, la grande horloge métaphysique.
Extrait d'un texte qui dit une vie passée à entretenir le feu sacré et à flâner entre les intervalles.
Dans la spirale des galaxies où le temps se décompte en milliards.
Pour ce Pop and Yvelin, on a plongé dans Je vis pas ma vie, je la rêve, récit de l'œuvre et du vécu de Jacques Yvelin. C'est donc signé Valérie Lehoux et Jacques Yvelin. Le livre est publié chez Fayard. Au cours de cette émission, vous avez aussi entendu la voix d'un gamin de 4 ans. Depuis, il est devenu grand, même si son nom d'artiste tient en une seule et unique lettre, H, Arthur H, qui vient de publier un nouvel album inspiré d'une expérience au théâtre. Le titre, Mort prématurée d'un chanteur populaire, dans la force de l'âge. et le morceau diffusé en ce moment sur Inter, c'est Nancy.
Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir au loin danser. Nancy, c'est lent. C'est lancinant, Nancy. Nancy, c'est si lent. Si lancinant, Nancy. Tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris. Comme dit Rimbaud, à peu près, l'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, belle Arthur, le supplice est sûr, Nancy s'en est allée au loin danser.
Pour rester encore avec Higelin Jacques, je vous signale la biographie que lui a consacrée Nicolas Comand aux éditions Hohébec dans la collection Les Indociles. Et il y a Jacques Higelin, l'enchanteur de Stéphane Deschamps, paru chez Hors Collection. Merci à Coy Nguyen qui réalise cette émission chaque semaine avec Alexandre Chenet ce matin. Merci à Elinka Negulesco pour la préparation de l'émission et à Jean-Baptiste Audibert, programmateur musical. La semaine prochaine, Pop & Co est Nina Simone et on entrera dans les coulisses d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Cannibal. À samedi.